20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Pour cette première émission de rentrée, le magazine d'archéologie de France Culture se devait de relater une histoire peu commune, une grande épopée, par essence tombée dans l'oubli, tout juste ressurgie du passé. On le sait, l'archéologie croise et recroise l'histoire, et cela sans toutefois en être une science annexe. Il n'en est pas de même des archéologues qui ne font pas la grande histoire, celle de notre mémoire, notre historiographie nationale. Exception faite aujourd'hui. Notre archéologue de légende a pleinement contribué à ce récit national. Légende républicaine, diront certains, au point de devenir un des 1038 compagnons de la Libération, cet ordre national institué dès 1940 par le général de Gaulle. Pour autant, cette histoire nous entraînera loin des maquis, vers les confins de l'Himalaya, le sous-continent indien, mieux les rives de l'Amoudaria. Aujourd'hui, l'épopée de Joseph Aquin est saluée dans une belle exposition au Musée de l'Ordre de la Libération, de l'Asie à la France libre, avec le concours des musées Guimet et de l'armée. Pour retracer son œuvre, entrevoir l'archéologie française en Afghanistan, celle d'hier comme d'aujourd'hui, trois invités, Vladimir Trouplin, Julio Bendezu Sarmiento, Philippe Marquis. Bonsoir.
Bonsoir.
Archéologue chargé de recherche au CNRS, Julio Bendezu Sarmiento, vous êtes actuellement directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan, la mythique DAFA, basée à Kaboul. Historien des temps contemporains, Vladimir Trouplin, vous êtes le conservateur du musée de l'Ordre de la Libération à Paris. Archéologue orientaliste, Philippe Marquis, vous êtes conservateur récemment au département des antiquités orientales du musée du Louvre et ancien directeur de la DAFA de 2006 à 2014. Où vous avez relancé les activités archéologiques en Afghanistan, notamment sur les sites de Messenak, Herat et bien sûr de Bactre. Vladimir Trouplin, l'histoire est belle, elle est encore plus belle, car Joseph Aquin n'est pas seul dans cette aventure et il n'est pas le seul à être compagnon de la Libération.
Et en effet, parce qu'il est accompagné pendant 15 ans de sa vie de son épouse, Marie Aquin, dite Ria Aquin, qui... De 19 ans, sa cadette va être son épouse, mais va être également son adjointe dans quatre missions archéologiques remplies sur le territoire de l'Afghanistan. Et elle va, comme lui, s'engager dans la France libre et trouver la même mort dramatique que lui en février 1941. C'est le seul exemple d'un couple compagnon de la Libération, et c'est pour ça qu'on a souhaité les mettre en particulier en lumière à travers cette exposition.
Et c'est une des six femmes compagnons de la Libération.
C'est une des six femmes compagnons de la Libération.
Tout demeure en février 41 dans un naufrage tant tragique que romantique.
Oui, à mon sens, plus tragique que romantique en réalité, puisque c'est la réalité des combats de l'Atlantique et des combats sur le front occidental avec les U-boat allemands qui créent des ravages parmi les transports civils et les transports militaires des Britanniques. Il meurt deux jours après avoir embarqué depuis Liverpool pour une mission qui devait les conduire jusqu'à Tahiti avec 30 points d'étape. Mission immense sur le plan géographique et très importante sur le plan politique où Joseph Aquin et son épouse devaient aller porter la parole de la France libre et remplir un rôle également diplomatique.
Ils vont représenter la France justement, notamment en Inde.
Oui, mais pas uniquement. Ils passent par le Moyen-Orient, ils doivent passer par l'Afrique, ils doivent rencontrer le général Katrou au Moyen-Orient. Joseph Aquin exerce à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler les fonctions de ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle. Le terme n'existe pas, mais c'est à peu près ça. Et ça met en valeur à la fois le caractère éminemment connu de Aquin dans les milieux d'Asie, et ça met en valeur aussi le fait que Joseph Aquin est un homme qui s'est un peu cherché et qui, avant de faire des études à l'école pratique des hautes études, a fait Sciences Po. Et il a gardé de ça toute sa vie un intérêt pour l'actualité et pour la marche du monde.
Le naufrage contribue-t-il à la légende Aquin ?
C'est indéniable, puisqu'ils sont, comme vous l'avez dit, indissociables dans leur vie, dans leur travail et jusque dans leur mort, les époux Aquin. Donc ça a contribué effectivement à une notoriété qui a aujourd'hui complètement disparu. Mais dans l'histoire de la France libre, effectivement, le couple Aquin a, de ce point de vue, une place à part.
J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'histoires, de légendes qui traînent sur les Aquins. On les croit morts sur la côte bretonne, mais il n'en est rien. Ils meurent au Féroé, par exemple.
Oui, enfin, c'est toute une histoire de légendes colportées, transmises. Leur rencontre, par exemple, on a toujours raconté, parce que ça, c'est romantique, que leur rencontre s'était faite à l'école du Louvre, quand Joseph était professeur et elle, élève. En fait, il n'en est rien, on s'en est aperçu en préparant cette exposition, vu que le premier cours que Joseph Aquin a donné à l'école du Louvre s'est passé 5 ans après leur mariage. Vous voyez, donc c'est pas du tout ça. Il y a des zones d'ombre dans leur rencontre. Probablement, c'est la sociabilité luxembourgeoise, puisque les Aquin ont eu 3 pays. Le Luxembourg, dont ils sont originaires, la France, qui est leur pays d'adoption, et sans doute l'Afghanistan, qui est leur pays de cœur.
Voilà. Pour ma part, j'ai découvert Joseph Aquin il y a plus de 25 ans. Jean-François Jarige avait alors organisé un événement au musée Guimet, Aquin et la croisière jaune, cette extraordinaire expédition dont il fut l'archéologue avec Teilhard de Chardin. Philippe Marquis.
Extraordinaire aventure aussi, extraordinaire par son but, qui est à la fois un but technologique, mais qui est aussi un but scientifique et aussi... il faut bien le dire, un but politique. Donc, voir Aquin impliqué à une telle opération montre bien aussi l'ampleur de ce que Joseph Aquin brassait intellectuellement. Mais ça montre aussi l'extrême curiosité de ce chercheur. Je pense que Vladimir Troublin a très bien dit, c'est quelqu'un qui a une formation en politique, mais qui est aussi un excellent savant, qui est un excellent conservateur de musée. C'est aussi un extraordinaire entraîneur d'hommes. Et le rôle et l'aura qui dégage de cet homme est effectivement ce que tout le monde remarque. Et ce qu'il en reste après sa disparition, c'est quelque chose qui, jusqu'à une date très récente, en fait, je crois que une des dernières personnes qui ont eu des discussions très importantes avec Aquin, qui était le roi d'Afghanistan, Zahir Shah, jusqu'à la fin de sa vie, quand on lui parlait de la Dafa, le nom qui venait à ses lèvres, c'était celui de Joseph Aquin. Donc la croisière jaune, c'est une étape dans l'itinéraire d'Aquin extraordinaire par les rencontres qu'il y fait, hein, que ce soit...
Teilhard
de Chardin, bien entendu, et puis bien tous ces industriels entre guillemets, hein, que ce soit Audouin Dubreuil, Hart, ce sont des gens extraordinaires qui aussi finalement trouvent en Aquin finalement l'image idéale de ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire à la fois le s'aventurier, on dirait de nos jours, c'est-à-dire à la fois un chercheur confirmé, mais quelqu'un qui dit aussi à qui veut l'entendre que son ta discipline scientifique, l'archéologie. Il la pratique comme un sport. L'archéologie est un sport, ce qui définit assez bien d'ailleurs l'itinéraire de Aquin.
Quelle est la formation de Aquin? Sa thèse porte visiblement sur les scènes figurées de la vie de Bouddha d'après les peintures tibétaines parues en 1916.
Ces diplômes universitaires, ils sont en quelque sorte le négatif de l'impression des gens qui l'entourent. Ces gens qui l'entourent, c'est Émile Guimet, c'est des gens comme Alfred Fouché. Alors Alfred Fouché a plus d'un titre puisque il va collaborer avec Alfred Fouché, le fondateur de la DAFA. Et donc en fait, c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que Aquin est à la fois quelqu'un de volontaire, mais aussi de quelqu'un de très respectueux vis-à-vis de l'autorité scientifique, de ces gens qui seront ses mentors et avec lesquels il aura des relations qui seront toujours à la fois extrêmement courtoises, parfois empreintes même d'une certaine, peut-être un petit peu d'obséquiosité par moment, mais qui est une fausse obséquiosité. Et puis derrière, effectivement, toujours à l'écoute des conseils. Par exemple, Alfred Fouché, par exemple, qui dit « Mais mon ami, vous n'y pensez pas, vous n'allez pas repartir en Afghanistan avec votre épouse. » Il y a une relation extrêmement intéressante et qui montre bien, enfin, je crois, que le caractère tout à fait particulier de ce personnage qui sait entretenir à ses mentors, avec ses mentors et ses formateurs, une relation de respect. Je dirais presque, pour le cas d'Alfred Fouché, de respect quasiment filial, mais aussi une relation qui n'hésite pas à certains moments à bousculer un petit peu les conventions et aller un petit peu au-delà de ce qui est à la fois sa feuille de route, mais à la fois ce que ses mentors lui ont dit. C'est-à-dire, je crois que c'est en ça qu'il a une erreur scientifique tout à fait intéressante.
La première mission afghane se déroule en 1924. Joseph Aquin rejoint Alfred Fouché et s'arrête devant Bamiyan et ses fameux Bouddhas aujourd'hui disparus. Il y retournera en 29, 31 et 34. Ce serait le premier à étudier réellement ces grands Bouddhas. Julio Benguezo.
Oui, effectivement, en fait, il va y mettre beaucoup de, de force, en fait, à travailler et à revenir, en fait. Effectivement, il fait un petit détour avec les Godards en allant vers Balkh, où il va arriver durant les mois d'été, d'ailleurs, en fait. Donc, il va très peu aider, finalement, Alfred Fouché à Balkh sur les travaux qu'il mène à cette époque-là. Un peu pour revenir, effectivement, à ce qui a été dit par Vladimir et Philippe. C'est un personnage tout de même haut en couleur, car dès cette première mission, en fait, il va montrer à Balkh combien, en fait, il est entrepreneur, il est courageux, intrépide, car très vite, voyant qu'il pouvait pas travailler effectivement à Balkh sous la chaleur, il va se décider d'aller faire quelques prospections, en fait, dans le Turkestan afghan, donc la partie orientale, où il va contre un peu, carrément, je dirais, l'avis de Fouché, partir. Fouché arrivera tout de même à lui donner, en fait, apparemment, deux de ses soldats qu'il gardait à Balkh, en fait, pendant ses fouilles. Et un traducteur, donc c'est comme ça qu'il va d'ailleurs atterrir quelque part sur le site de Païtawa, qu'il va fouiller très peu de temps après.
En tout cas, les fouilles de Bactre, citées bien sûr d'Alexandre le Grand, débutent, Yakin y participe, mais Fouché n'aura semble-t-il pas de chance avec ce gigantesque site. Il parlera d'ailleurs de mirage grec, Philippe Marquis.
Oui, c'est la déception de quelqu'un qui était parti à Bactre déjà un petit peu entré dans des pieds, dans le sens où il se sentait très mal à l'aise dans la direction d'un grand chantier archéologique comme pouvait l'être celui de Bactre. Et c'est vrai que, par exemple, dans sa correspondance qui a été très bien publiée, hein, eh bien, on voit dans ses lettres, effectivement, à la fois l'hésitation de Fouché, mais aussi à quel point il compte sur Akin, en disant Akin va arriver, on va pouvoir effectivement avancer un petit peu dans la recherche. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé à Bactre, au contraire, il a travaillé très courageusement, mais sans grande conviction. Alors, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, ça c'est sûr.
Ce qu'il cherchait, c'était bien sûr les Grecs.
Il cherchait les Grecs, il ne les a pas trouvés. Il cherchait aussi les bouddhistes. En fait, il cherchait le grand monastère de Bactre. Et en fait, il a trouvé le grand stupa, hein, du fameux Nobar, qui était le plus grand monastère bouddhique du nord de l'Afghanistan. Mais en fait, je crois que Fouché est un excellent chercheur, un très grand savant, probablement celui qui a écrit la meilleure vie de Bouddha qu'on connaisse. Mais bon, il n'était pas tout à fait fait pour le terrain. Et c'est vrai que c'est d'autant plus méritoire de voir qu'il est resté pratiquement 18 mois dans les conditions de Bactre telles qu'elles étaient en 1922-23. C'était quand même tout à fait méritoire.
Il ne s'agissait pas d'un mirage, mais peut-être aussi d'un problème de méthode. Philippe Marquis, vous avez retrouvé donc la Bactre des généraux d'Alexandre le Grand?
Alors, la DAFA a retrouvé, effectivement, et surtout la DAFA avec nos collègues afghans, puisque dans toutes ces opérations, depuis le début, hein, que ce soit à l'époque de Fouché, mais aussi quand Akin y a travaillé, les Afghans ont été intimement mêlés à ces opérations archéologiques. Et effectivement, maintenant, on sait que, grosso modo, ce qu'avait cherché Fouché était finalement à portée de main, que ce qui est les niveaux grecs qu'il aurait pu trouver, effectivement, il n'était pas, pour des raisons qui tiennent à l'avancement de la science à cette époque-là, il n'était pas en mesure de pouvoir les identifier. Mais la capitale grecque, oui, et bien là, il y avait des monuments, probablement des monuments même très importants, puisqu'on a trouvé des blocs de pierre qui correspondent à vraiment de grands bâtiments publics, probablement de grands temples, et puis surtout, bon, cette ville de Bactre, qui a suscité l'imagination des chercheurs pendant des années et des années, on s'aperçoit que c'est effectivement une ville énorme.
La première cité grecque qui sera découverte le sera en 1961, à Eranoum, fouillée donc par Paul Bernard, récemment disparu, qui était venu en parler en 2015. C'est à Eranoum, ce grand site, qui a été trouvé le premier?
Oui, en fait, Paul Bernard va être appelé à un moment donné, effectivement, par Schoenberger pour venir travailler en Afghanistan. Le roi lui-même, en fait, Saher Shah, avait découvert, parce que c'était un terrain de chasse, où il allait souvent, en fait, passer du temps libre, des gens avaient découvert ses colonnes et ses chapiteaux. Donc il a fait appel très vite, en fait, à la DAFA pour venir vérifier et se convaincre de l'importance de ce site. Très vite, effectivement, la DAFA a mis en place des fouilles programmées qui ont duré plusieurs années jusqu'au départ d'ailleurs de Paul Bernard d'Afghanistan en 78.
Alors on le sait peu, au travers de sa délégation, la France a eu le monopole de l'archéologie en Afghanistan.
Oui, Dès le départ, en fait, c'était une négociation et un vouloir des Afghans, d'ailleurs, un petit peu pour bloquer les ennemis de l'époque, à savoir les Anglais et l'Empire russe. Le roi lui-même, en fait, avait insisté, bien que Fouché, dès le départ, n'était pas très convaincu. La France a voulu, bien entendu, garder ce monopole qui a été utilisé jusqu'aux années, d'ailleurs, un peu d'après-guerre, car la négociation était difficile. D'ailleurs, il y a des notes de Aquin, pour revenir à Aquin, en fait, où il, parce que c'est Aquin, d'ailleurs, qui fait le premier partage des objets de Païtava, le partage qui a été divisé en deux et que finalement les Afghans ont un petit peu interprété à leur manière, donc la convention, pour dire qu'effectivement la plupart, voire tous les objets étaient des objets exceptionnels, donc qu'ils ne pouvaient pas partir. Et c'est le roi lui-même, en fait, Amanullah, qui a dû quelque part, en fait, faire le partage qui était pas tout à fait, en fait, dans le sens que Aquin s'attendait, mais qui a pu ramener certains objets très importants au musée Guimet.
À Paris. La DAFA est créée, bien sûr, en 1922, donc presque 100 ans. L'histoire de cette délégation est toutefois liée aux différents aléas qui ont agité le pays, Philippe Marquis.
Oui, enfin, là, je crois qu'on a l'illustration même de ce que peut être l'archéologie à l'étranger. L'archéologie française en est un exemple. La DAFA, c'est une institution qui a dû s'adapter aux circonstances politiques qui étaient celles du pays, que ce soit pour les fouilles d'Ada, hein, dans la région de Jalalabad, où Bartou a été plusieurs fois obligé de s'arrêter pour cause d'hostilité des paysans des alentours, de reprendre ses fouilles pour cause, si je puis dire, en fait, de soutien très actif du roi d'Afghanistan. Ça a été le cas, en fait, au moment de l'insurrection du Bacha Sakao, donc à la fin des années 20, où le pouvoir avait été pris par un chef qui était à la tête d'un mouvement d'opposition au roi d'Afghanistan, et pour lequel, effectivement, donc ça, c'est un des grands épisodes aussi de la vie d'Aquin, où en fait Aquin s'est retrouvé seul dans la légation de France à défendre la légation contre les Kouistani, qui étaient donc ces gens des montagnes qui supportaient celui qu'on appelait le Bacha Sakao, qui s'appelle en fait l'émir Habibullah. Et donc du coup, c'était vraiment donc c'est encore un épisode qui montre bien effectivement toute la difficulté d'une mission comme la DAFA. L'autre grand épisode, c'est celui de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'effectivement, là aussi, les circonstances politiques, limite mondiales, ont fait que donc Aquin décide de rejoindre la France libre. Pourtant, une partie de la DAFA reste sur place. Donc c'est Roman Gershman qui va reprendre et va continuer en fait les activités de la DAFA. Et puis donc en 1945, pour être remplacé par Daniel Schumberger. De nouveau donc recalage avec de nouveaux interlocuteurs politiques dans un contexte différent. Là, la DAFA cesse d'avoir son monopole, puisqu'en fait l'Afghanistan devient un pays qui s'ouvre plus à l'archéologie. Et puis donc les derniers avatars, si je puis dire, de cette évolution, c'est effectivement bien l'invasion russe de 1978, le coup d'État de 1978, l'arrivée des Russes en 1979.
Et puis c'est la DAFA qui est en 80-81.
Alors la DAFA dont les activités en Afghanistan cessent en 82 à la demande des autorités afghanes, qui demandent la suspension des activités de la DAFA, et cette espèce de longue nuit, en fait, qui a été une nuit pour l'archéologie afghane, la longue nuit pour les chercheurs, en fait. Vous avez parlé de Paul Bernard en particulier, qui a été, lui, donc pendant 20 ans, s'est trouvé dans l'impossibilité de revenir sur le terrain sur lequel il avait travaillé.
La grande réalisation des Aquin est sans doute Bégram, mais qu'est-ce que Bégram ? Une grande cité, Julio Benguezzo ?
Effectivement, c'est une cité fortifiée, où les Aquin ont continué un petit peu les travaux que la DAFA avait déjà entrepris bien avant, qui s'est couronné de succès face aux premières grandes découvertes en fait effectuées en Afghanistan.
La grande découverte est bien entendu le trésor de Bégram. De quoi s'agit-il exactement, Philippe Marquis?
Le trésor de Bégram, c'est quelque chose d'assez difficile à définir, tellement c'est hors norme. C'est-à-dire que la chance extraordinaire, alors est-ce que c'est de la chance? On ne pense pas qu'il y a de chance en archéologie, en tout cas il n'y a pas de chance si on ne l'exploite pas. C'est la découverte effectivement dans deux pièces de cette forteresse de Bégram, d'une accumulation d'objets invraisemblables, si je puis dire.
Hétéroclite, pour être en
Alors, dire. Hétéroclite dans le sens où effectivement c'est grosso modo des objets qui viennent de tout l'univers connu à l'époque donc de la constitution de ce trésor, c'est-à-dire aux alentours du premier siècle de notre ère, c'est-à-dire qu'on a des objets qui viennent de Grèce, on a des objets qui viennent probablement d'Égypte ou de Syrie, des objets qui viennent de Chine, malheureusement ceux-là très mal conservés, et puis une collection absolument invraisemblable d'objets en ivoire qui viennent d'Inde. Et là, c'est la surprise pour tout le monde. Puisqu'en fait, on connaissait pratiquement pas le travail des ivoiriers indiens des premiers et deuxièmes siècles de notre ère. Et là, on en trouve, mais des quantités. Et surtout, on n'en trouve pas des petits morceaux, mais on trouve des objets, du mobilier, on trouve des fauteuils, on trouve vraiment tout ce qui, avec, bon, indépendamment de toute la diversité d'objets, aussi une qualité en termes de travail de l'ivoire qui est tout à fait exceptionnelle. Avec ceci de tout à fait intéressant, qui fait tout à fait écho à ce trésor, c'est que le seul objet qui était à peu près de la même nature qu'on connaissait auparavant, c'est probablement ce qui est un bord de fauteuil qui avait été trouvé à Pompéi, qui finalement est tout à fait cohérent, dans le sens où effectivement, ben voilà, on s'aperçoit qu'au 1er, 2e siècle avant de notre ère, pardon, eh bien, il y a des biens de haute valeur qui circulent au travers de toutes les grandes routes commerciales qui traversent le continent euro-asiatique. C'est en ça, effectivement, que c'était une découverte exceptionnelle, indépendamment du fait que ça a permis, effectivement, d'illustrer des choses qu'on ne connaissait pas, par exemple, sur l'art indien.
Il y a aussi ce vase extraordinaire avec la vue d'Alexandrie.
Alors, c'est je dirais, c'est ce qu'il y a de plus paradoxal, finalement, dans ce trésor de Bégram, puisqu'en fait, grosso modo, on a, à Bégram, trouvé un verre qui est une représentation, donc on considère que c'est la représentation la plus fidèle du phare d'Alexandrie. Alors, dans un endroit aussi continental que l'Afghanistan, trouver ce genre d'objet, ça paraît complètement surréaliste, mais en même temps, ça montre bien qu'effectivement, bien voilà, on avait un endroit, au centre de multiples routes commerciales extrêmement importantes, eh bien, où des objets aussi incongrus que celui-là, si je puis dire, même si c'est pas tellement incongru, pouvaient se trouver.
Vladimir Troupelin, on attribue cette découverte à Marie Aquin, la femme de Joseph Aquin. Nous voici donc devant une sorte d'histoire des femmes d'archéologues, à l'image d'ailleurs d'Agatha Christie, qui découvrira, ou qui du moins contribuera à la sauvegarde des ivoires de Nimroud.
On ne lui attribue pas, c'est elle qui découvre, puisqu'elle est en charge d'un des deux chantiers de fouilles, et c'est là que se trouvera, dans la chambre numéro 10, le fameux trésor de Bégram. Parmi d'ailleurs les centres d'intérêt de Marie Aquin, il y a des intérêts très ethnographiques. Alors j'en parle volontiers parce que c'est très intéressant. Elle filme, elle fait énormément de photographies, elle fait des films en noir et blanc et en couleur, et elle filme à la fois l'environnement, la rudesse et la beauté des paysages, mais elle les sites archéologiques, les populations, les hommes et les femmes, et le travail aussi. Et le chantier des fouilles de Bégram, il est filmé. Alors, il n'est d'ailleurs pas filmé par elle dans certains passages, puisque c'est elle qu'on voit travailler à la consolidation des ivoires de Bégram qui viennent d'être exhumés. Donc, elle participe vraiment, comme une archéologue de terrain, à tout ce travail de la DAFA.
Julio Bendezu, le trésor de Bégram sera bien sûr partiellement déposé au musée de Kaboul. Ce trésor a, semble-t-il, été pillé par le pouvoir taliban durant donc les années 80.
Oui, bah, toute une partie a été retrouvée un petit peu éparpillée dans le monde. Notamment, en fait, il y a eu des retours depuis l'Angleterre il y a quelques années. Et on dit, on le sait dans tous les cas, qu'une bonne partie en fait de ces trésors en ivoire en fait serait toujours en Afghanistan aux mains d'un de ces généraux pakistanais très
influent.
Voilà.
En tout cas, après 20 ans de fermeture de la délégation archéologique française en Afghanistan, en 2002, la DAFA renaît. Julio Bendezu, vous êtes désormais les seuls archéologues à travailler depuis cet terrible attentat de 2017.
Oui, on tente encore de travailler, car on ne peut pas abandonner nos amis et collègues afghans, en fait, qui ont beaucoup de mal, effectivement, à travailler actuellement, suite d'ailleurs à d'autres incidents qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Des grands sites comme Messeinak, les travaux aussi à Bamiyan, quelques institutions internationales qui n'ont pas d'archéologues comme l'UNESCO, comme l'AGACO, en fait, continuent effectivement à tenter de y travailler. Nous y contribuons directement avec nos collègues archéologues jeunes afghans qu'on a effectivement à la DAFA actuellement travaillant pour nous.
D'ailleurs, un archéologue afghan est mort récemment, donc à Messeinak, sur ce gigantesque chantier.
Oui, bah, pas à Mecegnac, mais en fait sur la route de Mecegnac, qui est une route effectivement très dangereuse, en fait, surtout très tôt le matin et le soir, car c'est la route empruntée par l'ensemble des talibans, en fait, qui viennent depuis le Pakistan, en fait, essayer de rentrer armes et autres explosifs à Kaboul.
Vladimir Trouplin, 6 juillet 1940, Joseph Akin arrête l'archéologie et s'engage.
Oui, absolument. Il arrête l'archéologie, il écrit au général de Gaulle en passant par la légation britannique de Kaboul, parce qu'évidemment, il ne peut pas le faire par les voies officielles françaises, pour lui dire simplement que lui-même, son épouse et deux de ses collaborateurs se rallient au général de Gaulle et que son adhésion est totale. Et l'adhésion totale, dans l'esprit de Joseph Akin, c'est plus que clair. Et il va le prouver en rejoignant l'Angleterre avec Jean Carl, son épouse et André Baudouin, à partir de la mi-août 1940 et en arrivant en Angleterre le 15 octobre. Entre-temps, il s'est vu proposer par le gouvernement de Pétain le poste d'ambassadeur de France à Kaboul, qu'il a refusé, mais qu'il a forcément contraint à partir assez vite. Et voilà, et c'est une autre aventure qui commence alors.
D'autres archéologues se sont-ils engagés dans la France libre ? Philippe Marquis ?
Oui, alors je pense qu'effectivement, on a toute une série de personnages qui, issus du milieu archéologique, se révèlent dans la guerre, dans le conflit, et qui, alors certains par tradition, mais d'autres effectivement par esprit aussi, je dirais, pour certains d'esprit d'aventure, décident de s'engager dans la France libre.
Jean-Claude Gardin.
Alors Jean-Claude Gardin, alors l'exemple
parti
de Jean-Claude
à 16 ans, semble-t-il.
Voilà, Jean-Claude Gardin est le cas même de celui qui se lance dans l'archéologie par esprit d'aventure. Je crois que c'est un petit peu ça. Et donc à 16 ans, Jean-Claude Gardin décide de partir en Angleterre et aura des activités multiples. Et pour ceux qui ont connu Jean-Claude Gardin, ils savent ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui s'est intéressé aussi à beaucoup de choses, qui part bien des écarts. Faut y penser à Quint, c'est-à-dire cette espèce de curiosité, de cette pratique de l'archéologie aussi comme un peu comme un sport, parce que il y a certaines descriptions de ces prospections dans la plaine d'Aïranoum qui sont de l'ordre de la navigation, en particulier sur les rivières ou sur les canaux d'irrigation avec sa voiture, avec son camion berlière. On a l'impression effectivement d'être dans une grande compétition sportive.
J'ai souvenir de Jean-Claude Gardin, bien sûr, dans l'émission. Il y a bien sûr aussi Schlumberger.
Oui, il y a Daniel Schlumberger, dont on a parlé tout à l'heure, absolument. Et puis quelqu'un qui n'est pas archéologue à ce moment-là, qui est curé de Palmyre. Mais Palmyre, ça résonne aussi aujourd'hui. C'est Jean Starkey qui va être le père Jean Starkey, qui va être aumônier de la première division française libre et qui sera ensuite à la tête de l'école archéologique française en Israël. Et un des transcripteurs des manuscrits de la Mer Morte. Voilà.
En 1945, Charles de Gaulle crée la commission consultative des fouilles archéologiques à l'étranger, via bien sûr l'actuel ministère des Affaires étrangères et européennes. Est-ce en remerciement de l'engagement des archéologues français ? À l'étranger, bien sûr.
Personnellement, j'ai pas de la réponse absolue, mais je pense que, oui, Gérald de Gaulle était sensible à l'engagement du monde de la culture, d'une certaine partie des ethnologues, des gens de musées au sens plus large, et des archéologues.
Philippe Marquis.
Je pense qu'effectivement, celui qui a été très influent aussi dans cette décision, c'est Henri Seyrig. Je pense qu'Henri Seyrig, qui est aussi quelqu'un qui s'engage très vite, en plus avec, je dirais que ce qui est le parallèle avec Schlumberger ou avec Akin se fait dans la mesure où c'est quelqu'un de l'Est. Et Schlumberger était mulhousien, je crois, et donc Seyrig lui aussi donc venait de régions où il y avait... Je crois que le sentiment d'être français avait une résonance très particulière et s'engage et aura un rôle très important auprès du général de Gaulle pour pousser l'archéologie, si je puis dire.
L'histoire des Akin est une sorte d'histoire inachevée. D'ailleurs, leur plus proche collaborateur, qui ne pourra les rejoindre, se suicide.
Oui, il s'agit de Jean Carl, qui a partagé leur vie de 1929 jusqu'à la fin, qui était horriblement déçu de ne pas partir en mission avec eux et qui s'est suicidé 3 jours après avoir appris leur mort tragique en février 1941.
Merci beaucoup. Donc, à voir absolument jusqu'au 16 septembre, de l'Asie à la France libre, bien sûr au musée de l'Ordre de la Libération. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Renaud Fluzin et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 partira en France à la découverte des fouilles de l'été.